Bonjour. Qui souhaite être chrétien doit au moins connaître son identité. C'est important pour la profondeur de ton existence, trouver un sens, une fécondité dans cette petite école, ce stage d'amour qui dure pas si longtemps que ça, en vue du ciel. Et ton niveau d'amour dans l'éternité sera fixé par tes progrès en cette vie. Donc, ne perdons pas de temps. Et pour ça, il faut correspondre à notre nature de chrétien. D'où vient le mot chrétien? On dit que c'est Actes 11, 27, Christianos, à Antioche, ils ont reçu ce nom-là. Mais en fait, Christianos, c'est pas une désinence grecque. Donc, ça vient pas de Luc, l'auteur des Actes. C'est une traduction avec une désinence latine de l'araméen, Mashiha, qui veut dire, en fait, tu es toi-même un Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire, Christ? Oint. Et donc, ton essence, c'est d'être oint par l'esprit que Jésus t'a communiqué et qu'il a soufflé dans les apôtres, le cœur de l'Église. Donc, déjà, ça nous indique en Jean 20, 22 qu'il faut être membre de l'Église pour avoir la plénitude du Saint-Esprit et vivre selon notre nature. Depuis notre baptême, nous en avons reçu la plénitude et à la confirmation, la surabondance. Le gros problème, c'est que les cathos ont pris pas assez l'Esprit Saint. Il y a moins de 2% des catholiques qui prient l'Esprit Saint. Et on ignore, en fait, c'est le grand ignoré des trois, les passages fondamentaux révélés sur le Saint-Esprit, notamment les dons de l'Esprit Saint. Ça vient d'où? Isaïe 11, 2. Mais il y en a combien si vous ouvrez votre Bible? Il y en a 6. Donc, d'où vient le septième? C'est la tradition. Alors, frères et sœurs, faut être précis dans notre Bible. C'est pas normal de laisser des gens être bac plus 30 000 dans des choses profanes. Et nous, si on le fait pas, qui d'autre le fera à notre place? Il y a plus que 2% de pratiquants en France. Il faut que tu le fasses pour 50 autres personnes. Parmi ces 2% de pratiquants, il y en a moins de 30% qui lisent la Bible régulièrement. Et la Bible, ça se travaille avec un crayon à la main ou un ordi ou une tablette. Et pour pas être comme un gars qui recommencerait son CP toute sa vie, il faut écrire. Pourquoi est-ce qu'à l'école, vous demandez à vos enfants de venir avec un stylo? Et puis quand vous allez à la messe, faites pas comme les évangéliques ou les témoins de Jéhovah, ils bossent leurs textes. Alors ok, ils n'ont pas les sacrements, mais on a un trésor, on a des milliardaires spirituels, on a reçu le maximum des talents. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le faire fructifier et que tu grandisses dans la science de l'amour. Les autres sciences, les autres doctorats, c'est du beurre, c'est des balayures, nous dit saint Paul. La science de l'amour, elle s'apprend dans le Saint-Évangile et ça se travaille. Il nous a donné un intellect pour l'employer et il nous rendra compte de ce qu'on a fait de ces talents reçus. Donc, Isaïe 11:2 nous dit qu'il y en a 6. Mais en fait, la Bible, nous ne sommes pas dans un fondamentalisme. On considère, par exemple, dans l'islam, ils disent que Djibril Gabriel aurait tenu la main de Mohammed, ils reconnaissent qu'il était analphabète, il aurait dicté un texte incréé. Donc, c'est écrit comme ça, faut l'appliquer littéralement. Nous, c'est pas comme ça. Dieu a volontairement voulu une multiplicité de textes, et même dans, si on prend juste une seule langue, soit l'hébreu, soit le grec, soit l'araméen, soit le latin, il y a une pluralité parce que la vérité, elle est symphonique, elle n'est pas littérale, mais dans l'esprit. Et Dieu a voulu ainsi qu'on le cherche personnellement, ça sera un peu l'évangile d'aujourd'hui aussi à la messe, pour qu'on n'en fasse pas le contenu d'un savoir et une idéologie, mais qu'on le cherche personnellement jusqu'à notre mort. Et après, on ne pourra plus faire de progrès. Ton ange gardien se penche sur toi avec jalousie, parce que toi, tu peux grandir dans la connaissance et l'amour de Jésus, et après, c'est fixé. Donc, perds pas ton temps. Isaïe 11:2, tu as la version hébraïque principalement, et la version grecque. Et le sixième don, il a deux sens différents, mais en fait, qui sont très proches. Et donc, la tradition, en s'appuyant aussi sur d'autres passages de l'Écriture, a dit qu'il y en a sept. Le dernier, c'est la crainte de Dieu, le septième, mais qui correspond à celui du texte grec qui est la eusébeia, la piété, pietas. Et donc, dans les classifications traditionnelles, on a réuni la sixième et la septième parce que Proverbe 9.1 dit qu'il y a 7 colonnes, ou Zacharie 4.2, il y a 7 lampes. Si vous voulez les références, des détails là pour sculpter ce don fondamental de la crainte de Dieu, j'ai tout mis en ligne dans le site jesus1.fr/crainte-de-Dieu, avec juste des tirets autour de 2. jesus1.fr, crainte de Dieu. Normalement, ça apparaît là aussi, j'espère. Donc, qu'est-ce qu'un don de l'esprit? Si tu veux être chrétien, vivre ton identité terrestre avec densité et trouver un sens, une direction et une signification dans cette vie. Pour résumer, un don de l'esprit, c'est une grâce, c'est-à-dire un cadeau, charis, une grâce créée, sanctifiante pour toi, à laquelle tu es appelé à coopérer. Donc il faut les bosser un peu les 7. Mais aujourd'hui, on va voir le couronnement des 7 dons. C'est aussi le nom que lui donne le livre des Proverbes, la crainte de Dieu. Alors, ces dons de l'esprit, donc c'est pas un truc qui tombe sur la tête. Dieu te le propose. Il a gardé ses mains transpercées après la résurrection, alors que toutes ses autres plaies ont été guéries. Bon, il y a aussi les deux pieds et le cœur. Pour te dire qu'il retient pas ces 7 dons. Luc 11:13 dit, si vous qui êtes mauvais savez donner du pain à vos enfants qui vous en demandent, combien plus le Père qui est bon donnera l'Esprit Saint. Et donc, cultiver cette relation personnelle avec l'Esprit Saint pour dire qui est le Père. Il y a un seul Père de l'Église qui a fait un traité sur la Trinité, c'est Hilaire de Poitiers. Ça aussi, c'est un trésor pour nous les Français. On a reçu plus de 5 que tous les autres pays, à égalité avec l'Italie. Mais il y a un des saints fondamentaux, il y en a d'autres, hein. Hilaire de Poitiers, son traité de la Trinité, il essaie de définir l'essence de Dieu le Père. Et il dit, le Père, c'est celui qui donne et qui donne tout. Et donc, Dieu veut encore plus que toi te déverser tous ses dons, dont celui qui est la porte d'entrée, le don de sagesse, et celui qui est son couronnement, le don de crainte de Dieu, qui n'a rien à voir avec la trouille. Faut arrêter. Mais ça nous vient malheureusement du grec. Parce que le grec, tu prends le terme phobos, comme français phobie, et ça recouvre toutes les acceptions du mot crainte. Or, la crainte de Dieu, c'est pas la même chose. Si tu veux bien descendre un petit peu sur le tableau pour distinguer ce rapidement en résumé, la crainte de Dieu, le 7e don de l'Esprit Saint, la dernière colonne, la crainte du Seigneur, elle est relationnelle, alors que les deux craintes primitives qu'il y a à gauche, elles sont un peu centrées sur nous. La première, elle est instinctive, ça vient de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, même si c'est un terme critiqué par certains psys, mais c'est un instinct de survie qui est nécessaire parfois pour échapper aux dinosaures, non, il n'y en avait pas, pardon, aux grands prédateurs des hommes préhistoriques il y a 30 000 ans. Le premier être humain, selon la science, que la Bible nomme Adam, ben, il fallait bien qu'il survive avec les moyens du bord. Et donc, il y a eu besoin de cette peur, mais parce qu'on est dans un monde déchu. Donc, faut pas mépriser cette peur. Jésus lui-même, il a assumé toutes ces peurs-là. C'est pas toujours du péché. C'est du péché si tu commences à y consentir. À quel endroit est-ce qu'il a assumé ses peurs pour toi? Et il t'en a libéré. Gethsémanie d'abord. Gethsémanie, il a tout accepté, c'est là que tout s'est décidé. Donc depuis Gethsémani et surtout la victoire de la résurrection, ses peurs, poubelle. Marie, elle écrase ça sous son pied et donc on peut prendre des décisions de confiance et on sait ce que Jésus a dit à Sainte Faustine, que les péchés qui blessent le plus son cœur, c'est quoi? Les manques de confiance. Eh bien, confiance et crainte de Dieu, c'est quasiment synonyme selon la parole de Dieu. Et entre cette peur un peu primitive et la crainte de Dieu, le grand don de l'esprit, le couronnement, il y a, selon c'est Thomas d'Aquin qui le formule de manière la plus complète, même si ensuite ça va être encore accompli. Il dit qu'entre les deux, il y a la crainte servile, la crainte d'esclave, la peur du châtiment, la peur de la punition. faut pas non plus la mépriser. Il y a certains qui évitent le péché, c'est mieux que rien, parce qu'ils ont la trouille d'aller en enfer. Alors le problème dans l'histoire, c'est qu'on a insisté tellement là-dessus que ça a fini par refaire tomber les chrétiens dans une sorte de paganisme, une terreur, une frayeur de Dieu. Et ça, c'est pas l'évangile. Et alors, vous voyez que le grec, il emploie le même mot pour tous. Et donc, à chaque fois que tu as le mot « ne craignez pas », où ils furent saisis d'une grande crainte, il faut discerner selon le contexte de laquelle de ces trois craintes il s'agit. Je dis que Thomas d'Aquin n'a pas été jusqu'au bout parce que quand il parle de crainte filiale, c'est pas faux, mais nous on est quand même chrétiens et donc notre but c'est la communion avec toute la Sainte Trinité. Donc il y a aussi la crainte sponsale, comme entre deux époux. C'est le contraire de, imaginons, un des deux est adultère, ben il est dans la trouille que l'autre le lui reproche, c'est naturel. Et il y a aussi la crainte pneumatique, c'est-à-dire la sainte crainte du Saint-Esprit, qui est celui qui se connecte, qui communie avec l'Esprit-Saint et non pas avec les esprits déchus, les esprits de péché. Hein, 30% selon Apocalypse 12 des anges créés sont déchus. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a deux fois plus de fidèles que d'infidèles. Le ressort de ces trois craintes, pour la peur et la crainte servile, eh bien c'est le doute. Souvent, et les psys confirment que 90% de nos peurs ne se réalisent jamais en fait. Et parce qu'on est déchu, on a ce manque congénital de confiance. Qu'ont fait Adam et Ève après le péché? Ils se sont cachés, l'hébreu dit dans l'arbre, ben etz. C'est pas dans le bois qui traînait au jardin d'Éden, c'était dans l'arbre pour annoncer l'arbre de la croix par lequel devait nous venir le salut. Et le ressort, en revanche, de la crainte filiale, eh bien, c'est la foi. Parce que son objet, c'est l'absolu divin. C'est pas un lion qui va te dévorer, une personne qui va te voler ou t'attaquer. Les passions ou vertus liées, pour les deux premières, c'est l'orgueil et la vanité, deux péchés fondamentaux vaincus par Jésus au début de son ministère au désert, alors que pour la sainte crainte filiale, c'est l'humilité et l'adoration. On va essayer de définir après ce qu'est cette sainte crainte de Dieu. L'effet intérieur, pour les deux premières, c'est paralysant, c'est comme une servitude, un esclavage, ce sont des chaînes. La peur de l'enfer, ben, ça a fini avec le jansénisme par l'apostasie en France. Et presque tout le monde était chrétien, ils n'avaient pas forcément fait une rencontre personnelle avec Jésus. Mais enfin, au niveau de la civilisation, l'effet est quand même massif et dramatique. Alors que l'effet intérieur de la crainte filiale, eh ben, c'est la libération de toutes les peurs. Qu'est-ce qui peut bien encore t'arriver si tu es dans cette relation de communion? Il n'est pas la trouille, c'est le problème du mot phobos. Cette relation de communion, le couronnement des dons de l'Esprit avec Dieu Trinité, c'est une élévation par la grâce. Il y a aussi un effet transformateur. Donc la peur, elle est destructrice. Il y a plein de gens qui bousillent tout à cause de la peur. La crainte servile, ben, c'est pas fameux non plus. On fait pas de grands progrès si on agit juste par intérêt égocentrique pour éviter la punition. En revanche, la crainte filiale, elle est très constructive, elle t'oriente vers toute ta vie vers le bien. Et pas que toi, pas seulement ta vie, mais les autres autour de toi. Puis un effet extérieur, la peur, c'est la fermeture pour se protéger. Alors que la crainte filiale, eh ben, ça produit de la charité. On va voir pourquoi c'est lié à la relation avec le prochain. Alors, donc, ce terme de crainte, il est ambigu. Et donc pour nous, si on veut être chrétien, il faut le clarifier et vraiment prendre aujourd'hui, 7 août 2025, la décision de cultiver notre coopération avec ce grand don de crainte de Dieu. Dans l'Écriture, on constate cette crainte au moment des grandes théophanies, manifestation de Dieu pour Jacob au songe de Bethel. Et il dit que ce lieu est redoutable, le Seigneur était là et je ne le savais pas. Et ça, dans chaque église, ou même quand tu passes en voiture devant une église, tu sais qu'il y a plus d'énergie que dans toute les soleils de l'univers, toutes les centrales nucléaires, le tabernacle de Jésus, ton Dieu présent, avec tout son amour proposé, son âme, sa divinité, tout. Donc, il y a une théophanie pour nous, pas une, uniquement une fois dans son existence comme Jacob. Toi, c'est continuellement, quand tu passes devant une église, crainte de Dieu, il est là. Et il mène, il me propose tout, il propose que ma famille, mon pays et le monde entier soient sauvés. Au buisson ardent, pareil, première fois qu'il y a une vraie discussion entre un être humain, un médiateur, c'était Moïse et Dieu, et ben, Exode 3:6, il y a eu la sainte crainte de Dieu. Le don de la Torah au Sinaï aussi avec les tremblements de terre, parce que Dieu c'est pas toujours dans la voie d'un fin silence, ça c'est de l'idéologie. Il peut aussi se manifester dans des grands signes cosmiques. Il y en a un, notamment au moment de la mort de Jésus, Golgotha, tremblement de terre, paf, le centurion longin et les soldats, crainte de Dieu, dit le texte. Et le terme grec, il est très beau, c'est, alors, le grec c'est une langue très conceptuelle. Il dit, avec le verbe phobéo, l'adverbe sphodra, qui veut dire il craignir excessivement. Je sais pas pourquoi on diminue la puissance des paroles du grec parfois dans nos traductions, alors que Jérôme respectait. C'est le modèle des traducteurs, Saint Jérôme. Et souvent, cet adverbe « sphodra », il traduit la langue de Jésus, donc l'original des évangiles probablement, en tout cas avant que ce soit complètement finalisé en grec, ce qu'on appelle un infinitif absolu. Ils craignirent de craignir, c'est-à-dire qu'ils ont craint, mais alors vraiment de la crainte, quoi. Il n'y avait pas plus grande crainte totale que ça. Donc, ce sont des termes qui sont employés quand il y a de grandes manifestations de Dieu par des signes cosmiques, des annonciations, celle de Jean-Baptiste, celle de Jésus, celle de Samson, juge 13, crainte de Dieu. Des grands miracles, pêche miraculeuse, marche sur les eaux, tempête apaisée, des apparitions angéliques, les saintes femmes au tombeau, même Paul, avant d'aller se faire martyriser à Rome, le Seigneur lui apparut par un ange et il dit « crainte de Dieu ». Alors, ça sont des moments notables où il y a la sainte crainte du Seigneur et très souvent, le texte révélé dit « n'aie pas peur ». Donc à chaque fois, vous voyez, comme le terme est ambigu pour qu'on cherche, c'est un mystère à creuser. Mystère, ça vient de muéo, je me tais devant une réalité divine qui dépasse mon intelligence de fourmi déchue et j'essaie de contempler qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et alors à la fin, eh bien l'Écriture, elle synthétise en disant que eh bien le seul objet de la crainte de Dieu, il n'y a qu'un être sage, dit Siracide 1:8, très redoutable, digne de crainte. C'est le Seigneur. Donc, toutes tes craintes, il faut que tu les tournes vers le Seigneur pour être libéré des deux formes primitives et archaïques, la peur reptilienne et la crainte servile, la crainte d'esclave, pour entrer dans la sainte crainte de Dieu. Alors, ça, c'est ce que nous dit un peu le texte des Écritures sur la crainte de Dieu, mais on a aussi l'aide de la philosophie. L'Église est celle qui maintient le plus cet équilibre nécessaire entre foi et raison. Pour ça, c'est bon d'aller voir Aristote, notamment, souvent. Et il dit que la crainte de la divinité, souvent, c'est même pas la peine d'avoir la foi pour comprendre plein de choses. Et dans notre dialogue avec les 50 païens qui entourent chacun d'entre nous et dont on est responsable dans la communion des saints, eh bien, il est bon de partir aussi des instruments de la raison et de la philosophie. Donc, Aristote dit que la crainte de la divinité, c'est la juste mesure entre deux excès. L'impiété, ou l'absence de Dieu, athéotès, et la superstition. Alors, superstition, c'est aussi un mot problématique parce que ça vient du latin et ça a d'autres sens chez Cicéron. Mais lui, le terme qu'il emploie, c'est les deisi daimonia, c'est-à-dire la peur des esprits. Donc entre l'impiété du gros païen invétéré qui revendique orgueilleusement il n'y a pas de Dieu alors qu'il n'en sait rien et c'est indémontrable, et la superstition, qui est la crainte servile, c'est une forme de superstition. On n'a pas encore découvert le Dieu d'amour révélé dans l'histoire. Eh bien, il y a cette crainte de la divinité dont parlaient les philosophes avant la révélation chrétienne. Alors, essayons de définir ce qu'est ce septième don de l'esprit. C'est la reconnaissance ou acceptation aimante de la grandeur infinie de la bonté divine. C'est une attention à Dieu. Pour toi, il y a un critère, c'est aussi quand tu rentres dans une église, pas uniquement quand tu passes à 130 à l'heure devant un bâtiment, mais quand tu rentres dans l'église, est-ce que ton cœur et tes yeux sont attirés par la lumière rouge ? La lumière rouge, c'est l'héritage dans l'église latine de la menorah. Si vous avez été dans l'Orient chrétien, ils ont gardé le chandelier à 7 branches qui représentait la présence continuelle de Dieu dans le tabernacle au désert, puis dans le temple de Jérusalem. Et est-ce que, donc c'est un rappel que la lumière, le mot Dieu dans toutes les langues bibliques, et donc aussi en français qui vient du latin, le latin est aussi une langue biblique parce que Jérôme a travaillé avec les rabbins à la demande du pape, 4e siècle, Dieu, Deus, ça vient de dies, c'est la lumière. Et donc est-ce que tu as un début d'attention à la présence du cœur de Dieu ? Et donc, on a des rappels physiques avec ces lumières dans toutes les églises. Malheureusement, souvent, on a planqué les tabernacles et on se retrouve comme Marie-Madeleine, ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis, parce qu'ils ont mis le tabernacle dans un trou. La crainte de Dieu, donc c'est une révérence de tout l'être, une admiration. Les Anglais emploient le mot « oh » comme « awesome ». A-W-E, c'est une sorte de sainte stupeur qui est pas du tout une peur, c'est une admiration humble de quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et c'est transformant. C'est pas uniquement Dieu cherche pas des admirateurs, à la limite il s'en moque, il cherche des imitateurs et des adorateurs en esprit et vérité. C'est une prise de conscience cohérente donc de l'absolu divin. C'est un abandon confiant à Dieu, un amour plein de respect, rempli du sens de la sainteté de Dieu. Et on verra pour ça que la messe, c'est le lieu par excellence de la crainte de Dieu. Et alors les instruments, on verra aussi comment la cultiver, la faire grandir. Et donc il y a deux aspects principaux dans la crainte de Dieu. Perception de notre petitesse qui n'est pas une indignité. Jésus t'a libéré définitivement de l'indignité, de la honte. Tu es libre. Colossiens 2,14, il a déchiré sur la croix le document qui nous accusait. Donc basta avec ce mauvais sentiment de culpabilité. La conscience de culpabilité est bonne, c'est reconnaître nos fautes et toutes les rencontres personnelles de Jésus dans l'évangile commencent par ça. S'il n'y a pas ça, tu vas pas pouvoir le rencontrer, il est ton sauveur. Et si t'as pas péché, t'as pas besoin de sauveur et tu peux vivre comme un animal ou un païen volontaire. Si tu commences, on le voit avec tous les passages, Lévi le publicain à son bureau de collabo de l'occupant romain païen, la femme pécheresse, Zachée, tous, ça commence par ça. Et non seulement donc reconnaître ta petitesse qui n'est pas une indignité parce que tu restes enfant de Dieu même si tu as péché de manière inconditionnelle, de même que comme parents vous aimez inconditionnellement vos enfants, mais quelles que soient les bêtises qu'ils ont déjà fait ou feront. Et c'est aussi la perception de Dieu qui nous dépasse infiniment, la grandeur absolue de son amour. Et c'est un peu ce qui manque par le gavage de la société de consommation. J'étais une vingtaine d'années en mission dans des pays où il n'y a pas toute l'aisance matérielle qu'on peut avoir en Occident. On fait quand même partie ici des 2% de privilégiés sur la Terre, même s'il y a des problèmes. Et comme ils n'ont pas beaucoup de thunes, au moins, ils s'attachent plus que nous à l'essentiel. Ils se laissent beaucoup moins distraire et ils connaissent beaucoup mieux la parole de Dieu. Ils n'ont pas beaucoup de bouquins, mais ils en ont un et ils l'emportent souvent avec eux. C'est la Bible. Donc, la perception de l'absolu divin, c'est un sentiment qui s'est pas mal perdu, même parmi les chrétiens, en arianisant même la liturgie. L'arianisme, vous savez, c'est la méga hérésie qui s'est manifestée le plus avec un prêtre d'Alexandrie, Arius, au 4e siècle. En ce moment, on célèbre les 1700 ans du concile de Nicée, qui n'est pas un concile parmi les autres, mais le grand concile duquel découlent tous les autres. et qui forme le symbole de Nicée-Constantinople que nous professons régulièrement et qui a formulé la foi en termes universellement acceptables pour que ça reste pas une doctrine juste d'une secte judéo-chrétienne ou quelques prosélytes pagano-chrétiens. L'arianisme, ça réduit, ça diminue la divinité de Jésus. On transforme la messe en un simple banquet entre amis. C'est vrai que c'est aussi ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas d'abord une action que l'être humain fait, mais c'est l'action que Dieu fait pour toi. Et cette action de Dieu, elle n'est jamais une menace, un fardeau ou une rivalité. C'est une plénitude et une promesse. Donc celui qui entre dans la crainte de Dieu, il perçoit ça. Dieu n'est jamais le rival de notre bonheur, de notre liberté. Au contraire, il en est la seule source, elle n'est pas en toi. Vous pouvez éprouver dans vos familles la difficulté qu'il y a d'aimer avec assiduité, persévérance, malgré toutes les faiblesses de l'autre qui nous ressortent par les trous de nez parfois en communauté, c'est pareil, je vous rassure. On a besoin de se brancher à la source, on l'a pas en nous. Et donc cette source, c'est le bon Dieu, la Trinité, surabondance d'amour. Et donc la crainte de Dieu, c'est reconnaître ça. Dieu n'est pas du tout mon rival, il est encore plus mon allié que moi-même. Il est venu pour nous donner la vie en plénitude, dit le bon pasteur en Jean 10:10. Donc cette crainte de Dieu, elle ne diminue en rien la personne. Ça, c'est le gros piège de Nietzsche. Bon, il avait toute son histoire avec son père pasteur, une sorte de Dieu tyrannique, l'autoritarisme, une figure abîmée de Dieu le Père. Et il y a besoin de guérir de cette méfiance envers Dieu depuis la chute d'Adam et Ève, mais on n'en est pas encore sorti. Cette crainte de Dieu délivre de l'égocentrisme, penser que on va gérer tout seul et qu'on est autosuffisant, de toutes les peurs mondaines et même des peurs spirituelles, la peur du péché. Thérèse, elle en parle souvent avec ses consoeurs à Lisieux, et c'est pas du tout un motif suffisant et efficace pour nous faire grandir en sainteté. De chercher à éviter le mal, c'est beaucoup plus efficace, et ça on le sait depuis les pères du désert aussi qui l'ont formulé, de chercher les vertus opposées à nos péchés quand on va se confesser. Romains 8:15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la peur. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alors pour terminer, avant de voir quatre caractéristiques sur la crainte de Dieu, on peut voir le lien qu'il y a avec la relation avec le prochain. Elle implique une détermination à faire le bien. Ça, c'est Benoît XVI qui l'a formulé en 2015, à faire la vérité, à faire la volonté de Dieu. C'est un rejet spontané du mal qui nous éloignerait de lui. C'est le désir de lui plaire et de le réjouir. La crainte du Seigneur, dit Proverbe 8, c'est la haine du mal. Alors, les caractéristiques de la crainte de Dieu. Après, on verra les contrefaçons et les fruits. Donc c'est un commandement, c'est pas le plus grand commandement, c'est le commandement de l'amour, mais c'est un de ceux qui est le plus proche, le plus lié au grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain, qui sont pas des inventions de Jésus dans l'Ancien Testament, ils se trouvent en Lévitique 19 et dans le Décalogue. Et maintenant, Israël, que te demande le Seigneur ton Dieu, sinon de le craindre, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est donc aussi lié à l'adoration. Adoration, le terme français ou latin, vient de ad, qui est directionnel, donc un contact, et os oris, qui est la bouche. Donc c'est un baiser, bouche à bouche, avec Dieu. Et pour ça, on a besoin de la crainte de Dieu. Et le drame, depuis l'application de la réforme liturgique, c'est qu'on garde les gens tous debout avec de l'idéologie. Nous sommes ressuscités, donc pourquoi on va continuer de s'agenouiller? Or, même les Byzantins continuent de s'agenouiller, pas mal d'opportunités. Et puis, dans toute la Bible, les gens s'agenouillent. Pourquoi est-ce que nous, on serait meilleurs qu'eux, même s'ils sont vivants et sauvés? Donc c'est un commandement que la sainte crainte de Dieu, c'est un enflammement d'adoration. Cantique 1-3, résumé des 73 livres de la Bible que beaucoup de saints et des rabbins aussi ont demandé d'entendre sur leur lit de mort. L'odeur de tes parfums, elle parle au bien-aimé, c'est l'âme, dépasse tous les aromates. Donc ça nous indique l'amour divin, depuis ma petitesse vers sa grandeur infinie, ça dépasse tout le reste. Éphésiens 2:19, l'amour du Christ surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors ça ne dénigre pas du tout l'amour familial, tout le reste, les autres excellentes choses de cette terre, mais ça les ordonne à leurs principes. 1 Corinthiens 14:33, nous n'avons pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et donc l'ordre divin, c'est pas tchac-tchac la discipline humaine, mais c'est leur ordonner les priorités. Sinon, c'est le chaos et la médiocrité. On voit ça dans les paraboles du royaume. Ils vendent tout pour acheter la perle fine ou le champ qui représente avec son trésor le royaume de Dieu. Vendre tout, ça veut pas dire mettre ta maison en vente sur le bon coin et faire vivre ta famille dans la rue. Mais c'est ordonner toute chose à l'absolu divin. Alors, à la messe et à chaque messe de notre vie, donc reprendre conscience, l'évangile est une parole de feu, l'eucharistie c'est le myocarde même de notre Seigneur, et entrer dans cette sainte crainte de Dieu, l'adoration. François de Sales a une parole, alors c'est pas de lui, c'est pas verbatim, mais c'est tiré de... traité de son livre Philothée, là. Oui. Il dit, il faut craindre Dieu par amour et non pas l'aimer par, alors il dit aussi par crainte, mais en fait, ça désigne la parade hébraïque. Cette crainte, alors, comme ça vient de Isaïe 11:2, c'est un texte 100% sémite et donc il faut le penser à la matière sémitique, en lien avec le don qui précède et le don qui suit. Le don qui précède, c'est celui de connaissance. Le don qui suit, c'est le premier, au tout début, en revenant vers le début de la liste, c'est le don de sagesse. La sagesse, c'est la perception de l'amour divin. Et la connaissance, c'est l'expérience de l'amour divin. Et donc, ce qui permet de passer de l'un à l'autre, entre la perception et l'expérience, c'est le don de crainte. Donc, il est nécessaire. C'est pour ça que... tous disent Maïmonide, notamment. Maïmonide, c'est 1135-1204. Les Almohades, les fanatiques musulmans d'Espagne l'ont expulsé. Il s'est retrouvé en Égypte. Donc, il écrit « La crainte de Dieu, c'est la prédisposition à la foi. » Donc, il faut lire les sept dons du Saint-Esprit ensemble. Quand on dit que la crainte de Dieu suit le sixième don de connaissance, ça signifie la connaissance, c'est comme entre deux époux qui s'aiment. On dit un tel connu une telle. Ça veut dire ils ont une relation intime. Mais avec Dieu, c'est pareil de manière spirituelle. C'est la connaissance de Dieu. Mais pour cela, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Thomas d'Aquin, le don de crainte est nécessaire à l'homme pour son salut, parce qu'il est au commencement de la sagesse et de la perfection chrétienne. Et on le voit avec ces deux versets que je vous ai mis, le psaume 111 et le proverbe 1, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et la crainte est le commencement de la connaissance. Donc il ne faut pas séparer ce don de crainte aucun des sept autres dons, mais notamment des deux qui l'entourent, pour essayer de le comprendre et le vivre. Alors, troisième caractéristique, après son lien avec le commandement de l'amour et le lien avec les deux dons qui l'entourent, eh bien, c'est son lien avec la charité envers le prochain. C'est pas parce que tu crains Dieu que tu dois moins t'occuper des autres. Au contraire, plus tu crains Dieu, mieux tu vas t'occuper de ton prochain. Parce que si on considère que l'autre est une créature pour qui le Fils éternel a versé son sang, et ce sang a un prix infini, eh bien, on doit respecter absolument la dignité, la conscience et la liberté du prochain. C'est parce qu'on a la crainte de Dieu que jamais, jamais on voudrait faire le moindre mal au prochain. Et même, non seulement on veut pas lui faire du mal, mais on veut lui proposer le salut, on veut lui donner le meilleur qu'on puisse lui donner, que ce soit un membre de notre famille ou quelqu'un, un papou qu'on n'a jamais vu. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Matthieu 5, 46, quelle récompense en aurez-vous? Les païens n'en font-ils pas autant? Et ça, c'est précisé notamment dans le livre du Lévitique, chapitre 19, celui qui se centre sur l'amour du prochain, en disant « Tu ne maudiras pas le sourd, tu ne mettras pas d'achoppement devant l'aveugle, tu craindras ton Dieu. Moi, je suis le Seigneur. » Alors, il y a d'autres versets pour aller vérifier, j'ai mis les références. Ce lien, non seulement avec les actes, mais aussi avec l'intérieur. La pureté de cœur demande de pas non plus avoir des pensées de mépris ou de jugement envers le prochain si on a la crainte de Dieu. Faut pas se contenter de pas faire de mal et à l'inverse, pas uniquement avoir des bons sentiments pour les pauvres Éthiopiens qui meurent de faim, mais il faut les deux, à la fois intérieurement, mais avec tout ton être. Aimer en acte et en vérité, dit l'épître de Jacques. Et ça, c'est lié à la crainte de Dieu. Si à la crainte de Dieu, tu vas avoir cet amour de tout l'être, corps, psyché et esprit de Dieu en toi, dans ta relation avec le prochain. Et quatrième et dernière caractéristique maintenant de cette crainte de Dieu, elle implique d'accepter la pédagogie divine. Hébreux 12, 5, pendant 6 versets, développe la crainte de Dieu avec la pédagogie paideia, comme dans pédagogie. Alors, dans nos Bibles, souvent, c'est traduit discipline ou correction. Et pardon, c'est pas la même chose. Discipline, c'est encore autre chose. C'est, comme on est disciple de Jésus, ça vient de dicherer en latin, celui qui apprend d'un maître de vie. Mathétès en grec et pareil, talmide en araméen et en hébreu. Alors, bon, la correction, c'est aussi un peu la punition. Parfois, on peut pas éviter. Mais le terme, c'est paideia, c'est toute l'éducation saine, bien intentionnée, bienveillante de parents pour leurs enfants. Et donc, la crainte de Dieu, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le développe, pourrait lire les versets. Et ça demande de se laisser éduquer. Et alors, le père Cantalamessa, je vous ai mis tout à la fin de la page une citation, il a fait toute une catéchèse un jour sur la crainte de Dieu. Il dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est le chaos dans notre société? Eh ben, notamment, ça vient de ce que les enfants n'écoutent plus la païdéia de leurs parents. Mais pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que leurs parents n'écoutent pas la païdéia de Dieu. Donc, faut pas s'étonner que ça marche plus du tout. Tout vient de là. Votre famille sur la terre. Pourquoi Paul dit en Éphésiens 5, 31, et c'est la seule réalité dont se soit dit dans toute l'Écriture, sur 35 527 versets, c'est un grand mystère. Il le dit pas du sacerdoce ou de l'Eucharistie, il le dit de la famille. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de grand mystère, mais c'est explicite pour la famille. C'est que votre mission, c'est pas uniquement d'être bien avec 2-3 clampins pendant 50 ans sur cette terre, c'est de donner une parabole vivante, féconde et heureuse de la famille divine. Notre but, la communion avec Dieu, la source de l'amour. Et donc, c'est la mission de votre famille de vivre cette pédagogie saine comme Dieu l'a voulu, les relations qu'il y a entre la Trinité. Le programme familial, ça doit être la Trinité en principe. Et dans les Actes des Apôtres, on a aussi un témoignage de cette sainte crainte de Dieu, des gens qui acceptent la pédagogie divine. C'est une expression qui vient du judaïsme, des païens fascinés par le monothéisme et l'éthique juive, qu'on appelait les craignants Dieu. On voit ça avec le centurion Corneille, et ensuite, plus tard aussi en Asie mineure, on nous parle des craignants Dieu. Alors, ils n'étaient pas de lignée matriarcale juive, donc ils n'étaient pas juifs selon la chair et le sang, mais ils sont devenus prédisposés à la foi par la crainte de Dieu. Bon, et ils sont entrés dans l'Église ensuite en général, les craignants Dieu. Cette crainte de Dieu, c'est ce qui sous-tend l'attitude spirituelle juste de ceux qui font partie de l'Alliance. Ton baptême, l'équivalent de la circoncision dans la Nouvelle Alliance, un peu, te fait entrer dans l'Alliance. Et donc, notre manière d'en vivre tous les jours, c'est la crainte de Dieu ou la confiance. Maintenant, on va voir les obstacles, les contrefaçons à la sainte crainte de Dieu. C'est l'idolâtrie. C'est par exemple le juge inique, cet homme ne craignait pas Dieu, dit le texte dans Luc le chapitre 18. Et dans l'Ancien Testament, il y a une liste aussi de personnes qui refusent, ils ne craignent pas Dieu. Alors ça, c'est vraiment la pire caractéristique qu'on puisse faire de quelqu'un dans l'Ancien Testament. Ou Jérémie 2:20, verset 20, qui parle soit du démon, soit de ses impies en disant « je ne servirai pas ». Donc c'est quelqu'un qui préfère d'autres idées. Une idole, c'est pas forcément une statue faite de main d'homme, c'est quelque chose qui, dans ta vie, prend la place de Dieu. Et le problème, c'est qu'on est fondamentalement fait pour quelqu'un de plus grand que nous et d'où nous venons. Et si on ne le reconnaît pas comme le Dieu créateur, ben on va se faire toutes sortes d'autres divinités. On va appeler ça la franc-maçonnerie, une idéologie, je sais pas quelle passion humaine, mais c'est une divinité, c'est une religion de remplacement et c'est dramatique. Deuxième obstacle aux contrefaçons de la crainte de Dieu, l'orgueil et l'égocentrisme. Donc c'est une illusion d'autosuffisance, une autodivinisation. Et même à l'intérieur de l'Église et chacun d'entre nous, souvent on a tendance à vouloir redéfinir et apprivoiser, enfin contrôler Dieu pour en faire quelqu'un de non menaçant, un inconnu, enfin une idole qui nous met à l'aise comme un simple copain permissif qui existe seulement pour nous bénir et nous donner quand on a besoin, quand on en a besoin de ce que nous voudrions. Alors, est-ce que ce qui compte, ce sont tes pensées ou, comme dit le Seigneur, mes pensées ne sont pas vos pensées? Il est quand même un petit peu plus sage que nous et donc on a besoin de cette crainte de Dieu. Et attention si nos idées personnelles, nos projets prennent trop de place. Thérèse d'Avila, vous savez, dans sa vie, bon, elle est un peu fondamentale pour l'histoire de la spiritualité depuis 500 ans. Et elle a vécu une méga deuxième conversion parce qu'elle était entrée au Carmel pour des raisons un peu humaines, de vanité, un peu comme une crainte servile. C'était pas mal intentionné, c'était pas mauvais, mais vraiment complètement insuffisant. Et donc, après tout son chemin de conversion, en 1572, donc 10 ans avant sa mort, après une communion eucharistique, elle a une vision, et Jésus lui dit, « Mon honneur est devenu le tien, et ton honneur le mien. » Mi honra es tuya y la tuya mia. Et donc ça, c'est le passage de la crainte servile des choses du monde à la vraie crainte de Dieu, qui est la communion de cœur. Tu partages ton honneur avec Dieu. Tu ne le fais plus pour chercher l'estime de toi-même. Le grand but de toutes les techniques de méditation, auto-réalisation qu'on nous vend dans les supermarchés, mais la communion de volonté, de cœur et d'honneur avec Dieu. Autre piège, c'est la tiédeur ou négligence. Apocalypse 3:16, c'est le grand péché de l'église d'Asie mineure de Laodicée. Elle avait des bonnes intentions, mais ça s'est attiédi, elle n'a pas pris les moyens, elle n'a pas entretenu son but. Et notre vie, souvent, elle devient médiocre quand on oublie le but. Grégoire de Nice, 4e siècle, très grand père de l'église, dit « Mais comme il est bête, le voyageur qui, en chemin, finit par oublier la destination de son voyage. Il part à gauche, à droite, et il n'arrive jamais. Et ça, c'est ce qui nous arrive quand on oublie la crainte de Dieu. Ne se confier dans l'amour absolu, la seule source de tout bien. Autre piège, alors la peur naturelle, on l'a déjà vu, et on verra qu'un des fruits, c'est de nous en libérer. La crainte égocentrique du châtiment ou d'être séparé de Dieu, Romains 8, 38 dit « Ni la mort, ni la vie, rien ne nous séparera de l'amour divin. » Donc si on a encore peur d'être séparé de Dieu, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur le chemin de la crainte de Dieu. Les fruits maintenant pour terminer, il nous reste 10 minutes. la liberté intérieure. Qui craint le Seigneur n'a peur de rien. Siracide 34. Dieu ne nous a pas donné un esprit de couardise, dit 2 Timothée 1:7. C'est traduit parfois dans nos Bibles, esprit de peur. Mais c'est pas phobos, c'est deilia, qui est pire que le phobos, la phobie. C'est la parole que Jésus dit aux apôtres dans la tempête sur la barque. Matthieu 8. Pourquoi avez-vous peur? Couard. Donc c'est la couardise, c'est plus fort que la simple peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de couardise. Donc si tu entres dans la crainte de Dieu, tu te rends compte, tu as beaucoup moins peur. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de la santé, la nôtre et celle de ceux que nous aimons ou dont nous sommes responsables, mais avec détachement et confiance. On fait tout ce qui est entre nos mains, c'est le chemin de l'abandon à Dieu et de la confiance. Et pour ça, il y a des paroles très nourrissantes. Tout ce qui est à moi est à toi, dit Dieu le Père au Fils qui habite sa maison. C'est le fils aîné de la parabole du prodigue. Tout n'est pas mauvais dans le fils aîné. Il est resté dans la maison toute sa vie auprès de son père, ça c'est bien. Et Dieu le Père lui redit, et c'est une invitation à y croire, parce qu'il n'y a pas cru suffisamment précisément, « Tout ce qui est à moi est à toi ». Donc de quoi est-ce que tu vas manquer ? Psaume 23:1 aussi, moi je donne souvent en confession, parce que c'est un des péchés principaux des chrétiens, l'inquiétude. Le Seigneur est mon berger, je manque de rien. Très souvent, tu te rends compte que si tu as péché, c'est parce que tu cherchais des compensations, parce que tu pensais manquer d'estime de la part des autres, d'affection. Donc, tu as cherché toutes sortes de compensations humaines des mensonges de l'adversaire. Aussi, le psaume 34:9. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ces versets, faut pratiquer la méthode de Marie. Elle méditait ces paroles en son cœur et ne pas les quitter avant de s'être laissé transpercer par elles et d'y croire. Ce sont pas des paroles humaines pour t'informer, mais des paroles éternelles, divines pour te transformer. Donc rumine-les. C'est pas la quantité de textes qui va te sauver. C'est rencontrer le Verbe éternel en te laissant et brûlé de l'intérieur par ces paroles divines et éternelles qui jaillissent de l'amour. Le ciel et la terre passeront, tout ce qui est terrestre, les maladies, les accidents, conditions du monde déchu, conséquences du péché du monde entier, Romains 5:12, ça passera. Mes paroles, Matthieu 24, ne passeront pas. Donc appuie-toi là-dessus. Thérèse, pendant ses 9 ans au Carmel jusqu'à sa mort, elle a rien senti. C'était la nuit. Mais elle dit « Je crois ce que je veux ». Elle a pris la décision avec force, la crainte de Dieu. C'est pas uniquement un don qui tombe sur la tête, on a dit c'est aussi une coopération de l'être humain. 1 Corinthiens 3:9, verset malheureusement mis à l'écart par Luther, et la suite. « Synergoi teu ». La synergie, ça veut dire travailler avec, sun avec, ergoi comme ergonomie. Ton job principal comme chrétien, c'est de coopérer à la grâce. Il faut l'accueillir, c'est déjà ta première coopération, et travailler à la développer en employant les moyens de la vie spirituelle. On verra en conclusion. Autre fruit, après la libération de toutes les peurs, c'est alors Jésus va vivre ces peurs-là avec toi, mais depuis la résurrection, on n'est plus dans la phase comme à Gethsémani. À Gethsémani, il l'expie, il la prend sur ses épaules et dans sa chair. Ça oriente tout ton être vers les choses du Seigneur. En Colossiens 3:1, cherchez les réalités d'en haut, dit saint Paul. Ça génère une habituelle et instinctive réaction de désintérêt pour le péché. Si tu es devant la personne que t'aimes le plus au monde, t'as pas du tout envie de lui faire de la peine. Et ça, c'est ce qui se produit. Fais mémoire des moments d'expérience de la grandeur de l'amour divin. Si ça s'est pas encore produit, demande-lui de faire cette expérience. Et si ça s'est déjà produit, fais mémoire et demande même éventuellement que ça se répète. Mais ça se répète à chaque fois que tu prends une décision de foi. une décision de foi, une communion faite avec dévotion. Il n'y a pas de puissant exorcisme, c'est une nouvelle Pentecôte à chaque fois. C'est pas normal qu'on ressorte indifférent et non transformé de nos messes ou de nos temps d'adoration. Donc ça nous oriente tout notre être, ça nous fait fuir le mal naturellement. Ce n'est plus une peine quand tu es devant la personne aimée de faire un micro-sacrifice pour elle, ça te coûte plus. Souffrir en aimant, c'est déjà plus souffrir, dit la petite Thérèse. Jean de la Croix, donc cette crainte de Dieu, elle est purifiante. C'est sûr que si c'était devant l'amour, ça te nettoie naturellement. Tes passions désordonnées diminuent et l'Esprit Saint, don de Dieu, agit en toi. Ça te pousse à la responsabilité, ça te fait grandir. À la responsabilité, c'est-à-dire morale, on l'a vu dans la relation avec le prochain, et même en entreprise ou en politique, malheureusement, c'est Kennedy qui a formulé ce schisme, c'est une hérésie. Hein. Il a dit « ma vie chrétienne, c'est ma vie privée, ma vie politique, c'est ma vie publique ». Ben, c'est faux, on peut pas séparer l'être humain comme ça, et beaucoup de lois qui servent le Dieu de la mort viennent de cette irresponsabilité, ce manque de crainte de Dieu, de responsables politiques qui ne tiennent plus compte de la sagesse infinie, de la seule source de l'amour et de l'intelligence qu'est Dieu. Manque de crainte de Dieu, donc tout devient permis. Il n'y a plus Dieu, dit Dostoïevski, tout est permis. Alors, il y a d'autres transcendances, mais elles sont tellement limitées. Le consensus, la démocratie, c'est gentil, mais ça a permis l'élection de Hitler ou plein d'autres lois qui vont contre le bien de l'être humain et contre son auteur. Ça procure la paix du cœur, ça confère la sainteté. Dans le psaume, il nous est dit que cette crainte de Dieu, elle nous délivre. Ça, on l'a vu. De nombreuses tentations, de toutes les peurs humaines, naturelles. Rien ne nous manque. C'est-à-dire qu'on a la crainte de Dieu, on est comblé par cet amour absolu. Quand on se confie volontairement, activement en lui. Il y a aussi une béatitude. Il y a 120 béatitudes dans toute l'Écriture. Jésus en fait un résumé au début de son ministère avec 8 d'entre elles. Et le psaume 112 dit « Heureux l'homme qui craint le Seigneur et trouve son plaisir à ses préceptes ». Et ça, c'est quand même une révolution dans le christianisme. C'est plus des lois imposées de l'extérieur. Si tu les fais pas, on va te punir. Si tu les fais, tu auras une récompense. Ça, c'est vraiment primitif. C'est bien, mais c'était pour sortir l'humanité de la barbarie. Si tu entres dans une relation de communion avec la Trinité, eh bien, tout devient, il y a une connaturalité entre ta volonté et celle de Dieu. Les saints l'ont vécu, mais la sainteté, c'est pas un privilège réservé pour une élite. La mystique non plus. La mystique, ça vient du mot mystère, mueo. C'est entrer dans la grandeur de l'amour divin, par la crainte de Dieu. Les saints, ils recevaient le même évangile que nous, ils recevaient la même hostie, les mêmes confessions que nous. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour être comme eux? C'est jamais trop tard. Pour le bon larron, ça a été dans ces derniers instants. Pour nous, tous les jours de notre vie, comme dit saint Antoine le Grand, on recommence et on se remet sur le bon chemin en choisissant de coopérer à la crainte de Dieu. Elle mène à la vie, dit Proverbe 19. Bon, je vous ai mis ensuite quelques citations pour compléter, pour voir le lien avec ce chemin de l'humilité. La crainte de Dieu, c'est comme l'humilité, en fait. C'est reconnaître en vérité notre petitesse et notre dépendance bienheureuse, pas du tout d'esclave, mais d'enfant, d'âme épouse et de copneumatique avec l'esprit d'amour divin. Je vous demande pardon, j'étais un peu vite sur certains points, mais vous avez toutes les références sur l'affiche. Est-ce qu'il y a des choses que je peux préciser dans les 5 minutes qui nous restent? Ce qui doit être très clair, donc, c'est la distinction de Thomas d'Aquin et ne plus confondre la crainte de Dieu avec la trouille. Du coup, on l'ignore, on la désire pas. Si on parle de trouille, c'est sûr, ça m'intéresse pas du tout. Mais le Yirat Adonai de l'Ancien Testament, c'est magnifique, cette attitude de confiance, de communion, où je reconnais en vérité ma petitesse devant la grandeur. C'est pas une diminution, c'est on laisse Dieu faire une élévation de nous-mêmes. Oui, dans l'Écriture, les théophanies, c'est là où ça apparaît, oui. Petit exercice intéressant proposé, vous pouvez ouvrir les passages de théophanie, Exode 20 au Sinaï, Genèse 22, le sacrifice d'Isaac, la transfiguration, qui n'est pas un miracle, mais une théophanie, l'évangile d'hier, les pêches miraculeuses. Alors, c'est pas toujours donné de manière éclatante, visible. Ça, c'est à cause de la faiblesse humaine. Dieu a eu besoin de passer par là à certains moments. Mais c'est comme dans la vie charismatique. Ensuite, ce sont des décisions de foi. Thérèse, elle fait une théophanie sans sentir, mais elle répète la béatitude de Thomas, « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ou perçu ». Et donc, on actualise ces moments de l'histoire sainte et ce que Dieu nous révèle. « Je crois à ce que je veux ». La parole de Dieu, c'est tout ce qu'elle me dit, c'est une théophanie si j'y adhère. Alors, oui, il faut aimer, non pas aimer Dieu par peur, mais craindre Dieu par amour. Donc, à un moment, c'est sûr, mais c'est une première étape, la peur. C'est sûr que le pécheur va se faire du mal à lui-même. C'est pas Dieu qui punit. Quand on nous parle du feu éternel, il n'est pas dit que c'est Dieu qui les jette dedans. Le feu est préparé par Satan, pour Satan et pour ceux qui le suivent. Donc, ce sont des conséquences immanentes du péché. Et donc, on peut, au début, se motiver par la peur, mais il y a un moment où l'acte de confiance, l'amour parfait bannit la peur, nous dit 1 Jean 4,18. Il y a un moment où l'enfant aussi il doit passer à faire le bien juste pour faire plaisir à ses frères et sœurs, à ses parents. Et pour nous, avec Dieu, c'est pareil. Pas uniquement « oh là là, ce Dieu lointain », mais au contraire, parce que je suis attiré par lui. Donc c'est une étape dans l'éducation en raison de notre condition d'homme déchu, oui. Jésus1.fr, 1 comme premier dans la vie.fr, français, / crainte de Dieu, et crainte-2-Dieu.